hommage à Dungeon Keeper 2.
Qui va là? Ah, c'est toi, petit imp. J'espère que tu viens faire un dépôt en pièces sonnantes et trébuchantes. Le trésor commence à être à sec.
Un dépôt? Non, mais ça va pas. Les donjons sont en faillite. Les monstres désertent leurs antres par centaines.
Ce sont des temps durs pour l'économie souterraine.
Oui. Te souviens-tu du temps du marché noir, des pots de vin et du blanchiment d'argent? Ah, il est loin le temps où nous pratiquions l'évasion fiscale sans se soucier du mal causé à autrui.
C'était le bon temps.
Maintenant, les monstres réclament de meilleures conditions de travail et un plus haut salaire.
Il faut que le maître du donjon nous sorte de là. Il faut qu'il réinvestisse massivement les impôts des monstres dans la banque du donjon. Pour sauver nos jobs.
Mettre l'argent des monstres que nous avons escroqué tout ce temps dans notre système déficient et continuer le cycle de l'abus? Ça serait pas un peu difficile à faire avaler aux monstres, ça?
Bah, en autant qu'ils pensent que c'est pour leur propre intérêt.
C'est pas si bête, ça. Je vais en parler au nouveau maître du donjon, Obama Monstre.
Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi. Bienvenue à cette édition de la semaine du 6 juillet 2009 de votre émission sur le monde ludique. Puissance maximale. Mon nom est Vincent Langlois et je suis en compagnie de François G. Couillard.
Salut Vincent.
Salut François.
Toujours un plaisir d'être avec vous.
Eh oui, et nous avons une émission quand même assez bien remplie aujourd'hui, François. Un petit tour de table juste avant de mettre un petit peu de musique.
On va parler de l'actualité ludique. On va parler des choses qui se sont passées cette semaine dans le domaine du jeu.
Également, de mon côté, moi, je vous parlerai d'un article de l'actualité qui est un peu en lien avec ce dont tu nous as parlé la semaine dernière, le steampunk. Ça m'a fait penser un peu à un article du mois de juillet qui est dans l'actualité. Et ça a le rapport à la science-fiction et même à un futur colloque ou congrès qu'il y aura une convention à Montréal au mois d'août.
Et quand on voit que l'actualité s'intéresse aux jeux surtout au milieu de la science-fiction, c'est que c'est rendu important.
Eh oui.
Et sinon aussi, on va avoir une entrevue avec la designer de mode de steampunk, Zoluna.
Et on terminera l'émission avec une entrevue avec Manuel Chantre de Taxi Nouveau. Alors, c'est le contenu de l'émission aujourd'hui. On y va en musique tout de suite.
Exactement. On va aller écouter Yannick Capmarty. Il a fait sa sélection musicale de la semaine. Comme à chaque semaine, cet individu, ce charmant français de Haute-Garonne, nous envoie une pièce.
Et nous le saluons également.
On le salue.
En passant.
Puis tous les gens aussi qui viennent de la France ou de l'île d'Anticosti ou de Yellowknife ou de Québec.
Qui nous écoutent sûrement avec une oreille extrêmement attentive. Et également, vous pouvez nous écouter, je vous rappelle, de nouveau sur notre site, le www.puissancemaximale.com.
Et on va aller écouter la sélection musicale de musax.info. Yannick Capmarty, allez voir ça sur son site. C'est toute la musique sur les jeux vidéo.
Chaque nouvel épisode de la série des Final Fantasy se voit doté de nouveautés.
La particularité de Final Fantasy X-2 vient de son histoire, qui est en fait la suite directe de Final Fantasy X.
De retour à puissance maximale, et il y a quelques semaines de cela, j'ai acheté le magazine L'Actualité, qui est l'actualité du mois de juillet 2009, mais qui est en vente toujours presque un mois avant le temps. Et bon, ce qui m'avait vraiment attiré dans ça, c'était la fameuse demi-photo de Spock, parce que c'était dans le temps de la sortie du nouveau film de Star Trek.
Et donc, L'Actualité s'est intéressée à la science-fiction.
Hein? L'Actualité s'est intéressée à la science-fiction avec un article que, en fin de compte, que je vais vous mentionner en quelques instants. Et le titre sur le magazine, c'était « Comment la science-fiction transforme nos vies ». Donc, ça fait référence à un article de la journaliste, et mon Dieu, j'ai oublié son nom, un instant, s'il vous plaît. Je vais avoir ça dans quelques instants. C'est de la radio live, c'est comme ça que ça...
Ben oui, l'actualité, qu'il y a même un quiz, je pense, pour savoir...
En fin de compte, il y a même un quiz. C'est moi qui vais te faire un quiz, à toi et aux auditeurs, mais c'est la journaliste Louise Gendron qui a écrit l'article « Quels humains pour demain? » Oui, ça fait, on apprend que, premièrement, du 6 au 10 août prochain, à Montréal. Montréal, ben, en fin de compte, va devenir la capitale mondiale de la science-fiction.
Oh là là!
Pour la première fois au Québec, on y accueillera la World Science Fiction Convention, ou si vous préférez, la Convention mondiale de la science-fiction. Et dans son article, bon, Mme Gendron fait référence à ça, elle mentionne également que très peu de domaines qui nous touchent aujourd'hui, de façon quotidienne, ont échappé au monde de la science-fiction. Mm-hmm. C'est quand même intéressant ce qu'elle fait. Elle-même, qu'elle est allée rencontrer des gens qui utilisent ou qui se basent sur certaines notions de science-fiction qui, vraiment, là, pour leur travail de façon quotidienne.
Okay.
Et elle présente la science-fiction au départ pour vraiment ce qu'elle est, en premier lieu. La science-fiction, c'est un genre littéraire, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui pensent que c'est seulement ce qu'il y a à la télévision, uh-huh. ou même les mauvais films de série B.
Non, ça vient des livres.
La science-fiction est d'abord et avant tout un genre littéraire qui me remonterait au Moyen-Âge, ou peut-être même avant.
Oh boy!
Elle cite, comme je vous disais,
des... ben, en fait, j'aimerais ça avoir un livre de roman de science-fiction du Moyen-Âge.
Oui, en fait, compte, ça doit être quand même moi qui ai fait de la littérature également du Moyen-Âge, c'était beaucoup plus de la littérature dans ce temps-là ecclésiastique, vraiment liée au monde des églises, mais c'est vrai. En fin de compte, ben, si on pense à Jules Verne que tu mentionnais la semaine dernière, ça en est de la science-fiction, Voyage au centre de la Terre, 20 lieues sur les mers. C'est pas nécessairement quelque chose qui nous amène dans l'espace ou qui nous amène aux robots. Mm-hmm. C'est vraiment des choses qui n'ont pas vraiment... en fait, qui n'ont aucune référence, aucun lien avec la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc, elle a rencontré des intervenants du monde académique, de la science et d'autres domaines. Par exemple, un candidat au doctorat en bioéthique de l'Université de Montréal, M. Philippe Aubert-Côté, qui lui mentionnait que la science-fiction est un de ses outils de travail quotidien. C'est quand même assez incroyable. Puis on a même appris dans cet article-là que René Lévesque avait pensé écrire un roman de science-fiction se déroulant dans un Québec indépendant. Donc, hey! J'avais pensé à ça. Eh oui!
C'est donc bien drôle, ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des romans de science-fiction qui sont basés sur des mondes imaginaires, des auteurs, selon leur monde parfait, selon leur monde, le monde comment ils l'imaginent.
En plein ça.
Et c'est intéressant.
Ça fait partie du trait de la science-fiction, tout simplement. Là. Et point vraiment intéressant dans son article, mais c'est là que vient le petit quiz que je vais vous faire passer, M. Couillard et peut-être même les auditeurs. Les mentions qu'elle fait au sujet d'auteurs qui ont imaginé à l'époque des gadgets qu'on utilise aujourd'hui de façon quotidienne. Mm-hmm. Et je vais vous mentionner quelques gadgets. Et peut-être que tu pourras... Moi, ma question, en fin de compte, c'est que tu me dises...
Dans quel univers ça a été
même pas dans quel univers. En quelle année tu penses que ça a été imaginé dans un livre, dans un roman ou peut-être même dans une nouvelle?
OK.
OK? On va y aller avec la plongée sous-marine et le pistolet électrique. Là, ça va être facile. OK, c'est plus ou moins facile pour le début, mais ça va être facile une fois que tu l'auras localisé dans le temps.
Okay.
Parce que c'est le premier dans l'univers.
Moi, je dirais le premier sous-marin, ça doit être.
On parle de plongée sous-marine et de pistolet électrique, pas nécessairement de sous-marin.
Ouais. Mais moi, je serais du genre à dire à peu près dans le même temps, là, parce que c'était le début peut-être de la plongée. Moi, je dirais début du 19e siècle.
OK, on parle...
De 1810.
Début, on parle la fin du 19e siècle. Oh. 1875. C'est la première date qu'on a ici, fait qu'après ça, tu pourras aller après 1875.
Okay.
Et c'était Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. OK, si je te parle de toi qui es un gars...
Mais c'est drôle parce que les sous-marins sont arrivés avant, en tout cas, peu importe.
Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, la plongée sous-marine n'était pas, en fin de compte...
Non, mais c'est surprenant de voir que c'était plus compliqué de faire des uniformes de plongée sous-marine que de faire des sous-marins, en tout cas.
Ouais.
En fin de
compte, c'est spécial.
C'est intéressant, oui.
Toi qui es un gars d'informatique, l'intelligence artificielle...
Ça doit remonter à la Deuxième Guerre mondiale, peut-être 1930, 1940.
Mais en fin de compte, selon l'article qu'on a ici, c'est 4 ans après la plongée sous-marine. Donc, 1879, dans un livre qui était « The Ablest Man in the World » de Edward Page Mitchell.
Il avait imaginé l'intelligence artificielle.
En fin de compte, on parle de référence à ce que pourrait être. C'est vraiment, c'est peut-être pas nécessairement très concret.
Et ça, c'était dans un bouquin.
Oui, dans un bouquin. En fin de compte, c'est dans un livre ou dans une nouvelle. On mentionne pas nécessairement si c'est un... Parce que je sais qu'il y a certains que c'est des nouvelles là-dedans. La clôture électrique, que tu aimes tant enjamber.
Là, faut que je me concentre, là, parce que là, tu me dis
1879, la dernière.
La clôture électrique, je sais pas, 1910...
Et en 1889, dans un roman de Mark Twain, le père de Tom Sawyer.
Oui, Mark Twain qui était tout un... Il avait des idées assez à gauche d'ailleurs, un personnage assez intriguant, intéressant.
Le radar photo, dont on entend parler beaucoup ces temps-ci.
Mon Dieu, mais les photos, c'est arrivé tard, ça. Je reprends encore mon 1910.
Mais en fin de compte, le radar, quand on dit c'est arrivé tard, oui, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu plus tard, début du 20e siècle, peut-être.
Mais ça a été
avant. Juste le temps d'y penser. 1894.
D'accord,
par John Jacob Astor de Fort. OK. Et la bombe atomique? 1895, c'est quand même très près.
Je commence à
Robert Cromie, tu commences à comprendre le système. Je vais aller un petit peu plus loin juste pour voir.
Non, parce que c'est hallucinant. J'ai tout le temps tendance à vouloir aller dans le 20e siècle, mais non, on est toujours dans le 19e siècle.
Oui, mais allons un petit peu plus loin. Parlons du 20e siècle. Le GPS.
Je sais pas, 1910?
1936, par Jack Williamson.
OK.
Et tu connais Isaac Asimov?
Oui.
Le livre électronique. Isaac Asimov, dans sa nouvelle, en fin de compte, The Fun They Had, les jeunes vont à l'école à la maison et ils ont l'ordinateur comme professeur et ils lisent sur les écrans des écrans d'ordinateur. Isaac Asimov, on parle d'un gars du milieu des années 1900, donc milieu du 20e siècle. D'après toi, le livre électronique a été mentionné en quelle année?
1950?
En 1951, t'es très près. Et si on revient juste un peu avant, quand est-ce qu'on a mentionné quelque chose qui ressemblait à Internet au niveau de la littérature?
Quelque chose qui ressemblait à Internet.
Oui, en fin de compte, un lien...
Peut-être 1940?
1946, mon Dieu, t'as les réponses entre les mains. Par Murray Leinster. En tout cas, regarde, c'est vraiment intéressant. On parle de plein d'autres choses comme ça. On parle des alertes Google, du thème transdermique, des choses comme ça qui, en fin de compte, ont été imaginées par des auteurs à l'époque et qui sont devenues réalité dans quelques années plus tard, ou presque même parfois un siècle plus tard. Vraiment
Disons-le, c'est toutes ces bébelles technologiques-là sont été inventées par des geeks qui avaient de l'imagination.
Oui, et parfois même, pas seulement des auteurs, mais des geeks qui étaient scientifiques, ou on parle d'Isaac Asimov, qui n'était pas seulement un auteur, mais qui était également un biologiste ou un biochimiste, en fin de compte, il était dans le domaine des sciences. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, je voulais juste mentionner ça, le petit article de l'actualité, un article de Mme Louise Gendron.
Très intéressant, ce numéro d'actualité-là, qui se concentre sur la science-fiction.
Oui, et à ne pas oublier, comme je vous le disais, la fameuse convention mondiale de la science-fiction qui se tiendra du 6 au 10 août prochain. On va sûrement en mentionner encore quelques mots dans les prochaines émissions de Puissance Maximale.
Sinon, on va aller écouter une pièce musicale.
Allons-y tout de suite en musique.
Et on revient avec un petit peu d'actualité. Là, on va aller écouter une pièce de Bitshifter. Donc, ça va être la sélection musicale de la Toy Company, pour nous préparer pour le Festival Off qui s'en vient dans deux semaines à Québec.
Oui.
Donc, la Toy Company, c'est un collectif de musiciens qui font de la musique électronique, inspirée des jeux vidéo. Alors, on va écouter Bitshifter, qui est un des grands de la musique électro. Ouais. Donc, vous êtes à Puissance Maximale. We'll be right back.
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
De retour, comme le disait Monsieur Fall, à Puissance Maximale, et c'est maintenant l'heure de l'actualité avec François.
Monsieur Fall, qui est le fondateur de TrickTrack.net, qu'on salue d'ailleurs.
Un site très, très, très important au niveau du jeu.
Il trippe sur cette émission-là, il écoute Puissance Maximale à toutes les semaines. Parlons un peu d'actualité. Donc, parlons moulin à images. Alors, évidemment, tous les gens de la région de Québec connaissent ça. Le moulin à images qui fait place aux jeux vidéo.
Hein?
Donc, l'industrie du jeu vidéo sera enfin représentée dans la diffusion du moulin à images.
C'est vrai que c'est quand même une industrie qui commence à prendre beaucoup, beaucoup de place à Québec, même et qu'on en parlait, on parlerait en fin de compte de façon presque
hebdomadaire
avec les gens qui font l'actualité du jeu vidéo à Québec. On parle des différentes compagnies et même justement dans l'actualité, celui que j'avais entre les mains, on parle, il y avait un numéro spécial sur l'économie de demain. On parlait de 20 entreprises québécoises qui montent, qui montent, qui montent. Et l'entreprise
là,
numéro 1...
Des entreprises de jeux vidéo dans le top liste.
Oui, c'est ça. Puis l'entreprise numéro 1, c'était Frima.
Frima Studio
de Québec.
OK.
Et on avait des entrevues là, avec le président, Steve Couture, et des employés de Frima Québec, en fait.
Ça, c'est dans quelle revue, ça?
C'est l'actualité dont je vous parlais il y a quelques instants à peine, celui du mois de juillet 2009, et on parle justement de différentes entreprises, dont l'entreprise Frima.
Bon, ben, c'est intéressant de voir que Robert Lepage s'intéresse aux jeux vidéo. Il va faire un clin d'œil dans le monde.
C'est quand même une personne qui est intéressée par les nouvelles technologies. On parle de son art, tout ça, toujours en lien avec les nouvelles technologies.
À la fine pointe. Puis Régis Labombe aussi, là,
il a sorti sa guitare.
Il a sorti sa guitare en plastique et il va nous rocker ça. Sinon, Binox, ils ont complété leur déménagement.
Oui.
Donc, ils étaient un peu à l'étroit dans leur locaux situé dans le nouveau Saint-Roch. Et donc, ils se sont installés dans leur nouveau édifice. Là, c'est vraiment un building au complet qui a été construit pour reloger Binox. Donc, Dominique Brown, le fondateur, s'est écrié « De cette fenêtre, je peux voir ce qui se trame chez mon compétiteur Ubisoft. »
Parce que ça super, donne comme ça.
C'est un drôle de hasard, entre parenthèses.
Ils sont tout près, là, c'est ça?
Ils sont un en face de l'autre, pratiquement.
Donc, avec une longue vue ou quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème. Dominique Brown, justement, en passant, que j'ai vu il y a une semaine ou deux de ça, quand on fait le lancement de Guitar Hero Smash It, on se rappelle que Binox Québec, au nom d'Activision, on fait le jeu Guitar Hero Smash It.
Et Québec est dedans le jeu.
Québec est dans le jeu. C'est vraiment impressionnant de ce que j'ai pu voir. En fin de compte, du jeu, malheureusement, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Mais juste pour retourner rapidement sur cette soirée-là, dont j'ai pas eu le temps d'en parler dernièrement, les gens de Binox, là, c'est vraiment c'est la classe. Des gens accueillants, des gens vraiment là, qui ont le style, ils ont la compétence pour organiser une soirée comme ça. C'était vraiment intéressant. Puis Dominique Brown qui nous fait un petit message en début de soirée. Un gars, là, toi, tu l'as déjà rencontré en entrevue ici, je crois. Et c'est un gars vraiment sympathique. Et
il y avait pas le Binox Band ou un truc
oui,
comme ça?
Oui, en plein ça, le Binox Band. Mais en fin de compte, quand on arrive avec des jeux, là, on parle de Guitar Hero, on parle de Rock Band à l'époque aussi. J'ai l'impression que ces compagnies-là, bon, premièrement, ils engagent des musiciens et ils se partent toujours un band. Et justement, le Binox Band était là. Ils ont joué les pièces du Guitar Hero Smash It. En fin de compte, qui est
là,
une reprise
on parle
de...
Ce que je me demande, c'est ils jouaient-tu avec des vrais instruments ou avec des instruments
oui.
du jeu?
Okay. Le Binox Band jouait avec des instruments, des vrais instruments, des vraies pièces. C'était comme un show rock auquel on avait le droit. Et juste avant ça, durant le début de la soirée, on pouvait essayer sur des postes avec des écrans géants le jeu sur différents postes. C'était quand même très, très bien fait. Et du côté de... Bon, le Binox Band a joué. Et après ça, les gens pouvaient affronter les créateurs du jeu qui, pour certains, mettaient les pieds ou touchaient à une manette de jeu vidéo pour la première fois il y a seulement un an.
Okay.
C'est quand même assez impressionnant. Là. Des fois, t'as des musiciens là-dedans là, qui ont fait juste de la musique pendant toute leur vie.
Ils n'avaient jamais
joué à de jeu vidéo. Puis bon, ça arrive comme ça comme carrière.
Est-ce que t'as joué? Est-ce que t'as participé?
Non, moi, je suis pas allé parce que au niveau de Guitar Hero, là, disons qu'à Medium, je suis quand même assez top. Mais quand il vient le temps de faire Hard ou bien plus difficile que ça, j'en arrache un peu. Puis il y avait seulement la guitare. Moi, je suis meilleur à la batterie. Mais juste pour te dire que les gars, là, qui ça faisait même pas un an qui étaient là-dedans, là, c'était impressionnant de les voir aller. Ils ont sélectionné, je pense, les 10 ou les 8 meilleurs de Binox. Et les gens pouvaient les affronter. Et s'ils gagnaient l'affrontement, eh bien, ils gagnaient une copie du jeu de leur... Ben, en fin de compte, de Guitar Hero Smash Hits sur la console qu'ils voulaient. Donc, c'était quand même intéressant pour
Est-ce
les
gens. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont gagné? T'es-tu quoi?
Moi, quand je suis parti, on était rendu au cinquième. Il y avait à peu près 3 ou 4 personnes qui avaient remporté. Ah, mais c'était vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais rien fait contre eux autres. Là. C'était quelques notes à peine qu'il manquait.
OK.
Faites pas assez geek jusqu'à ce niveau-là pour dire vraiment que je suis un good guitar hero.
Donc, on salue les gens de Binox qui font des bons jeux à Québec.
Eh oui.
Et sinon, rapidement, le lancement des concours de créateurs de jeux de Ludo Outaouais. Donc, ça, c'est pour les joueurs, les créateurs de jeux de société. Donc, Ludo Outaouais lance sa 3e édition de son concours de création. Donc, il y en a plein de concours de création. Ludo Outaouais en fait un aussi. Et vous avez jusqu'au 15 septembre pour participer. Vous pouvez aller sur ludo-outaouais.com pour participer. Et dernièrement, finalement, on avait lancé un concours pour titrer un événement de jeu à la Ninkasi, qui est un bar ici à Québec. Et on a reçu 28 suggestions.
C'est pas si mal.
La suggestion qui a été retenue, c'était La Sacrée Soirée, le nom avait été trouvé par Raymond Poirier. Raymond Poirier, c'est celui qui fait l'émission du matin à CKRL, qu'on salue d'ailleurs. C'était son anniversaire cette semaine. Et donc, je lui ai remis moi-même son prix Ispahan et il était très content.
Un excellent jeu. Il pourra jouer à ça avec ses amis.
Et ça fait le tour de l'actualité ludique.
Donc, la sacrée soirée pour la prochaine événement de jeu qui devrait voir le jour peut-être
cet
à l'automne.
Cet hiver. En novembre, genre en septembre probablement, ou quelque chose comme ça. En tout cas,
donc, à l'automne, on devrait avoir des nouvelles de ça et on pourra vous en parler ici à Puissance Maximale.
Certainement, parce qu'on est partenaire de l'événement.
Excellent.
Allons écouter maintenant une pièce. Le temps de me préparer, un instant. Ça va être une vieille pièce musicale là, des années 50-60 à peu près qui s'appelle le Pinball Boogie.
Pinball Boogie.
Parce qu'on peut danser en même temps qu'on joue au pinball, mon cher.
Mais c'est une maudite de bonne question. Moi, je pense que oui.
En tout cas, chanson va nous prouver que c'est possible de danser pendant qu'on joue au pinball. Vous êtes à puissance maximale.
Till it gets in the hole. Now if you're weak and hungry and you got no dough, just beg yourself a dime and you'll forget your woes. Split the dime in two and put a nickel in and shake it while you watch the little pinball spin. You do the pinball boogie. Whoa, the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. You rattle it and shake it till it gets in the hole. Lovely girl, I went into a joint to watch the pinball whirl. I shook it and I took it for 10 free games. It wasn't long till I forgot about that dame. We did the pinball boogie. Ooh, the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. You rattle it and shake it till it gets in the hole. Watch it roll, and mighty aggravating when you miss the hole. So wobble it and wag it, and you'll learn the trick. A boogie-woogie motion makes the scoreboard tick. You do the pinball boogie. Ooh, the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. You rattle it and shake it till it gets in the hole. You shake it, rattle it, shake it, rattle it. Shake it till it gets in the hole.
Donc, vous êtes de retour à Puissance Maximale.
Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale.
On va saluer Louis-Philippe en même temps qui
s'introduit.
Ben oui.
Pourquoi pas, on aime ça les enfants ici. Et donc, on a en ligne Zoluna, donc Zoluna qui est une créatrice de mode steampunk. Ses créations sont toujours éclatées et hors normes. Bonjour Zoluna.
Bonjour.
Donc, parle-nous un peu de toi, là. Comment ça a commencé ton amour là, du steampunk?
C'est en fouillant sur Internet qu'on a découvert le style qu'on trouvait adapté à nos goûts. Ça a donné que c'est un style qui mélange un peu le futur, le passé, fait plein de choses. Puis comme on est, moi puis mon copain, là, des artisans récupérateurs la majorité du temps, ben on trouvait que les vieilles pièces rouillées qu'on ramassait déjà par terre depuis longtemps allaient bien avec le style pour s'intégrer puis créer des accessoires puis des costumes. Là.
C'est ça, disons-là, c'est DeviantArt qui vous a inspiré, là.
Ben oui, je dirais là, la première étape, là, ça a pas mal été là-dessus, oui.
Ça, c'est un genre de site où il y a plein d'artistes, des illustrateurs qui mettent leurs images comme ça. Là. Il y a quelques-uns de nos collaborateurs qui participent d'ailleurs à ce site-là. On vous invite à y aller, DeviantArt. Et Zoluna, c'est ça, tu t'étais comme un peu prédestiné. Là, tu ramassais déjà les bouts de métal, tu faisais déjà du recyclage là, avant de te lancer dans le steampunk.
Ah oui, bien avant, là. Moi, je ramasse tous les petits bouts de métal rouillés sur le trottoir ou peu importe où, là, tout ce qui peut donner quelque chose à un moment donné, là. Des fois, ça peut s'intégrer dans toutes sortes d'affaires, là. Ça peut devenir une lampe ou une pièce collée sur un corset ou sur des pantalons. Ou... C'est ça.
Là, tu parles de lampe, ça veut dire que tu fais pas seulement des vêtements, tu fais aussi des accessoires?
Ben, des accessoires, oui, là, tu sais, comme mon copain est électricien, puis souvent on travaille ensemble pour faire des accessoires, des ceintures avec des dalles qui allument dedans, ou toutes sortes d'accessoires qui donnent, ben, en fait, le steampunk, c'est beaucoup les accessoires qui complètent le look, là, fait que sans les accessoires, ça look moins steampunk pas mal, finalement.
Ben justement, peux-tu nous décrire peut-être ces accessoires-là, ces vêtements-là, nous qui sommes à la radio, comment est-ce qu'on les décrirait, là?
Le look steampunk, en général, c'est beaucoup inspiré de l'époque victorienne. Fait que c'est beaucoup des corsets puis des grosses jupes, souvent. Mais c'est modernisé, si on peut dire, là. Fait que ça peut être des grosses jupes qui vont avoir des gros culs derrière, mais devant vont être plus courtes, où il y a beaucoup... Des bas de jambes, c'est beaucoup des accessoires aussi, là, les fameuses goggles, un peu le look, des fois un peu à mélanger avec un petit look aviateur, là. Ça peut être des gros pantalons bouffants ou beaucoup d'engrenages, de steampunk, comme ça le dit, de vapeur, de machine, au lieu d'être, mettons, comme électronique ou ce serait plus comme à vapeur là, qui fonctionne avec des gros moteurs comme les vieux trains, par exemple.
Là. Dis-moi, Zoluna, est-ce que là, j'essaie d'imaginer ça dans la tête, il me semble que je vois des couleurs qui sont pas très, très attrayantes. Il me semble que je vois du brun, je vois du beige, je vois du noir. Est-ce que c'est ça les couleurs du steampunk ou bien, même si ça doit aller avec la vapeur, ces choses-là, on peut y aller avec des couleurs un petit peu plus élaborées, des couleurs un peu plus frappantes ou voyantes?
Ben, on peut y aller avec des couleurs plus voyantes, mais j'avoue que la majorité du temps, ça, c'est assez, comme tu dis, terre, sale, brun, vert, rouille, rouge vin, là. Ben, en tout cas, moi, c'est beaucoup dans ces couleurs-là que j'aime travailler ce style-là. Mais des fois, je mets des touches un petit peu plus colorées, là, mais la majorité du temps, la base est assez sombre.
Il faut dire que Zoluna, tu fais pas seulement du steampunk, tu fais aussi différents trucs, comme par exemple des vêtements pour les hippies, pour les poupées, ce genre d'affaires-là. Là.
Moi, ben, je fais un peu de tous les styles, dépendamment de mon humeur, presque du matin, je dirais, là, mais je fais beaucoup du linge qu'on qualifie plus souvent de style gothique, là, même si moi, c'est pas comme ça que je le vois, là, vraiment, mais c'est souvent assez sombre, là. Fait que...
ouais, disons, là, il y a vraiment un lien avec le gothique, dans le sens que c'est tous les deux inspirés de l'époque victorienne. Sinon, Zolina, en mai dernier, vous avez organisé un pique-nique victorien. Peux-tu nous décrire comment c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi un pique-nique victorien?
C'est en fait une amie qui organisait ça, qui s'appelle Wicca Photo. C'était juste un gros rassemblement de tout le monde qui aime le look. Ça pouvait être vraiment victorien, comme ça pouvait être plus gothique ou plus Lolita. Lolita, c'est un style plus poupée japonaise, ou ça pouvait être plus steampunk. Fait qu'il y avait différents designers, puis plein de gens qui étaient invités. C'est vraiment un rassemblement, là, pour le plaisir, là, habillé d'époque avec nos plus beaux habits que...
Avec tous les styles mélangés, il n'y a pas de racisme dans le steampunk. On aime ça comme ça. Donc, on n'aime pas ça, les gens racistes. À Puissance Maximale, on s'intéresse à tous les jeux. On met tout ça sur le même pied d'égalité. En dehors de ça, est-ce que ces vêtements-là sont faits spécialement pour participer à des grandes natures ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. Là. Moi, je sais que comme quand je me fais un ensemble, souvent, je le mets dans la vie de tous les jours aussi. Là, mais faut être capable de supporter les gens qui nous regardent bizarre, là, parce que ça sort du commun. Là, mais c'est des vêtements qui sont souvent faits, qui s'adaptent vraiment bien pour les grandeurs nature. Là, ça, c'est sûr. Là.
Mais c'est sûr que si on se promène avec ça dans la rue, c'est toujours pas facile. On va dire, comme diraient les gens que j'ai rencontrés à Rajuku, ils aimeraient bien ça, se promener comme ça à longueur de journée avec leurs vêtements japonais flyés, mais c'est plus ou moins possible dans la société dans laquelle on vit. On risque de se faire regarder croche. Sinon, Zolina, je te remercie pour l'entrevue. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur zolina.com ou encore mieux, aller sur ton Facebook, parce qu'il y a des photos, on peut les voir, c'est génial. Et sinon aussi, tu m'as parlé d'un GN qui s'appelle Industria 1859, qui est un GN inspiré du steampunk. Donc, on invite les gens aussi à aller voir ça sur Internet. Je te remercie, Zolina.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Ciao et à la prochaine.
Salut.
Donc, on va aller écouter une pièce avant la prochaine entrevue.
Oui, vraiment, très intéressant. En fin de compte, la mode du steampunk, moi, c'est des choses vraiment que je connais pas, mais c'est quand même assez spécial. Mais j'avais vu les photos sur Internet. Ça vaut la peine d'aller voir le MySpace ou le Facebook de Zolina. C'est très, très, très impressionnant.
C'est spectaculaire.
Ah, vraiment, là, c'est hors de l'ordinaire.
Donc, on va aller écouter justement une pièce à thématique steampunk post-apocalyptique. C'est tiré de la soundtrack de la trame sonore de Fallout 3. Et c'est la pièce Civilization. Vous êtes à Puissance Maximale.
Each morning a missionary advertised with neon sign. He tell the native population that civilization is dying. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear
that no matter how they coax him,
I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed.
Magazine? What happens?
I see how people who are civilized bung you with automobiles.
You know you can get hurt that way, Daniel?
At the movies they have got to pay many coconuts to see.
What do they see, Danny?
Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bongo, he's so happy in the jungle he refused to go.
Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They hurry like savages to get aboard an iron train.
The Tringalingo Hula Humble Express.
And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain.
Aloka toho sahima hena.
When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground.
What do they do, Danny?
They swim and they fish, but that's what I do all year round.
So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go.
Don't want no jailhouse,
shotgun,
fish hooks,
golf club,
I got my spears.
So no matter how they coax him,
I'll stay right here.
They have things like the autumn bomb,
so I think I'll stay where I am.
Civilization, I'll stay right here.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Faisant partie de la récente émergence de la scène de la musique électronique montréalaise, dont les artisans se font de plus en plus entendre et se présentent également en spectacle à travers le monde, Taxi Nouveau se démarque par sa musique basée sur les sons 8-bit, en fin de compte, le 8-bit chiptune, dont on a déjà parlé, François, ici à l'émission. Membre fondateur du collectif Toy Company, dont tu parlais justement il y a quelques minutes ici, qui en sera à sa quatrième édition, en fin de compte, en termes de prestations, à Montréal la fin de semaine prochaine. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui l'homme derrière Taxi Nouveau, en entrevue, Manuel Chantre. Bonne fin de journée, M. Chantre.
Bonjour.
Et tout d'abord, pour bien saisir le sujet, là, bien cerner, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le mouvement émergent de la musique 8-bit chiptune?
La musique chiptune, c'est des gens qui utilisent des vieilles consoles de jeux vidéo comme source de son, donc ils prennent des vieilles consoles modifiées. Puis créer de la musique avec les sons de vieux jeux vidéo des années 80 souvent.
Donc vous incorporez ces sons-là à travers une musique qui est plutôt électronique.
Oui.
Et est-ce que c'est des consoles que vous utilisez seulement en studio ou ils arrivent justement en performance live de les utiliser? Est-ce que c'est possible de faire ça également?
Oui, c'est ça, c'est possible d'utiliser. Souvent les gens utilisent des Game Boy, les vieux Game Boy, les vieux Game Boy gris, donc c'est eux les plus souvent utilisés. Mais d'une performance à l'autre, c'est vraiment différent. Il y en a qui vont apporter des jouets modifiés. Il y en a d'autres qui vont avoir tout leur son préenregistré. Il y en a même qui vont créer du visuel en direct en traficotant des vieilles consoles de Nintendo. Donc, dépendamment de l'approche de l'artiste, il y a différentes façons là, de faire les performances.
Mais il n'y en a pas qui utilisent aussi des cartes de Noël ou un truc comme ça, là? J'ai entendu parler de ça.
Oui, ouais, c'est ça, les cartes de Noël, ça c'est moi qui utilise ça pour les performances Taxi Nouveau. C'est des cartes de Noël musicales modifiées avec une résistance photoluminescence, donc en contrôlant la lumière avec un genre de flashlight, ben je modifie le son puis je peux l'utiliser en direct.
Donc, du même type que les DJ ou à l'époque utilisaient les tables tournantes, les deux, trois tables tournantes pour faire des pièces une par-dessus l'autre, vous utilisez live des consoles de jeu et les sons sortent de là. Quand même impressionnant. J'imagine que de se retrouver sur scène, produire des albums de ce genre-là, ça vient d'une passion peut-être que vous aviez pour les jeux vidéo des années 80?
Oui, assez jeune, j'étais vraiment passionné, disons vraiment impressionné par les possibilités qu'on pouvait faire avec les jeux vidéo. Donc on passait des dés ou des jeux de Monopoly à une console, un jeu qui était sur la télévision, donc c'était pour moi assez impressionnant. Je pense que ça m'a marqué justement assez pour continuer d'en faire même quand les jeux existaient plus.
Est-ce que vous êtes toujours un gamer présentement?
Non, maintenant, disons que j'utilise vraiment plus l'ordinateur pour créer de la musique.
D'accord. Vous faites de la musique sur ordinateur, de ce que j'ai pu voir, depuis 1996. Votre premier album éponyme, Taxi Nouveau, n'est sorti qu'en 2008. Qu'est-ce qui explique cette douzaine d'années-là de différence entre le début et finalement l'accomplissement?
L'album, disons au début, dans les années 90 encore, l'équipement il était assez cher, donc d'acheter un synthétiseur c'était vraiment cher, puis il y avait une centaine de sons, puis là, on était limité à ça. Puis là, avec les années 2000, la technologie est devenue plus accessible, c'était plus facile de faire puis de la musique, puis d'être moins limité dans les compositions. Puis 2008, j'ai sorti l'album en 2008 parce que c'est des compilations que j'ai faites à partir de, c'est une compilation de pièces que j'ai créées à partir de 2004, une sélection de pièces que je trouvais intéressante pour aller ensemble. Puis, donc, c'est ça, là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une compilation de toutes les pièces depuis 2004.
D'accord. Et d'où vient votre inspiration quand il vient le temps de mixer les différents sauts pour en faire des pièces à votre goût? Ça vient d'où, cette inspiration-là?
Ben, c'est l'idée, c'est d'utiliser des sons, des sources sonores spéciales différentes, puis souvent qui sont à faible coût. La carte de Noël, c'est très, très intéressant pour ça. Puis, c'est l'idée de la créativité, de détourner des objets, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Avec le collectif Popcore, on s'amuse à détourner beaucoup d'objets puis faire des performances plus complexes en détournant le sens d'un objet. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui tranquillement m'a intéressé puis m'a inspiré.
Est-ce que c'est du même type, par exemple, qu'une performance live d'un groupe rock, là, dans le sens que vous pouvez toujours reproduire les mêmes chansons, ou c'est toujours de l'improvisation à chaque fois?
Oui, bien, c'est ça, l'élément d'improvisation pour moi est très important. Donc, la performance est différente d'une fois à l'autre. La performance peut durer plus longtemps. Il y a quelques éléments qui sont préparés. L'ensemble de la structure est préparée. Et c'est vraiment en direct avec la réponse du public que la musique se construit, puis de voir qu'est-ce qui est... C'est vraiment un dialogue avec la foule, un peu comme avec les DJ, mais avec ses propres créations. Donc, l'élément, la souplesse de la musique est assez importante pour moi en direct.
Toujours en entrevue avec Manuel Chantre, ici à Puissance Maximale. Monsieur Chantre, je mentionnais en introduction de cette entrevue que vous étiez l'un des membres fondateurs de la Toy Company, qui va tenir un événement la semaine prochaine au SAT à Montréal. Vous n'êtes pas sur la liste des artistes cette fois-ci. Est-ce que c'est par manque de temps ou vous avez une rotation chez les artistes du collectif?
Oui, bien, c'est ça. Il y a des rotations, là. Moi, ce que je voulais, c'est d'apporter toujours des nouveaux artistes de Montréal, puis aussi essayer d'avoir un artiste toujours de l'extérieur. Il va avoir Bob Liefisch, qui est une artiste de New York qui a démarré le mouvement, une des fondatrices du mouvement Chiptune 8-bit à New York, puis dans le monde aussi. Donc, on va l'avoir pour le prochain événement. Puis, de mon côté, ben je vais présenter une pièce de Popcore Duo, qui est une pièce avec des un peu plus expérimentale, en interlude, disons, pour le spectacle, mais j'aime beaucoup, je préfère beaucoup jouer de la musique puis faire des concerts. Ça, je peux pas m'en passer.
Excellent. Et en terminant, dans deux semaines, bien, vous serez au Festival Off de Québec en marge du Festival d'été ici. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cet événement-là?
Ben, pour cet événement-là, on va être plusieurs artistes de Toy Company. Il va y avoir Alice Effect, accompagnée d'XC3N, qui sont des membres importants du collectif, qui vont faire une performance à deux, qui ont fait seulement une fois à New York. Ensuite de ça, il va y avoir Noya, qui va présenter ses musiques pour la première fois, qui, à mon avis, va être très apprécié à Québec, que moi j'adore personnellement, d'ailleurs je viens de la ville de Québec. Donc, d'après moi, c'est quelque chose qui va être bien apprécié. Puis moi, je vais apporter mes dernières compositions de Taxi Nouveau, qui ont été présentées aussi en Europe au cours de l'année, puis ici à Montréal dans la Toy Company.
Excellent. En fin de compte, ce sont toutes de bonnes raisons pour aller vous voir dans deux semaines, du 15 au 18 juillet prochain, pour le Festival Off de Québec. Eh bien, Monsieur Chantre, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission de Puissance Maximale.
Ça fait plaisir, puis à la prochaine, puis on invite tout le monde à venir à notre spécial Toy Company, soit à Montréal ou soit à Québec pour le 18.
Excellent, donc on aura la chance peut-être de se croiser là-bas. Merci beaucoup.
Merci.
Puis les gens qui veulent avoir plus d'informations peuvent aller sur toycompany.cc.
Oui, également, même dans Google, en tapant Taxi Nouveau, on tombe sur le MySpace, même des sites sur Facebook également qu'on peut aller voir. Vraiment intéressant.
C'est intéressant que Puissance Maximale s'intéresse aux 8-bit, aux chiptunes, parce qu'on voit que c'est un mouvement qui est vraiment inspiré par les jeux vidéo. Et puis, je pense que ça prend de l'ampleur. Alors, c'est important qu'on en parle.
Oui, vraiment. Puis c'est tout à fait dans le créneau de Puissance Maximale.
Ben, je te remercie pour l'entrevue, Vincent, avec Manuel. Donc, on va écouter une dernière pièce?
Oui, on y va, une dernière pièce, juste avant la fin de l'émission.
Donc, ça va être une pièce, justement, inspirée des jeux vidéo, mais ça va être du metal. Donc, video game metal. Et ça va être le groupe Snapple Man. Donc, la pièce va s'appeler Malicious Finger. Vous êtes à Puissance Maximale. We'll be right back.
ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Eh bien, mon cher François, c'est déjà la fin de notre édition d'aujourd'hui de Puissance Maximale.
On remercie à tous les invités qu'on a reçus.
Donc... Manuel Chantre de Taxi Nouveau et également Zoluna, qui est une créatrice de mode du nouveau, en fin de compte, du steampunk, c'est bien ça.
Donc, on vous invite à aller voir leur site internet, que ce soit toycompany.cc ou zoluna.com.
Et comme on vous le disait juste avant, vous pouvez également aller sur notre site internet, puissancemaximale.com, sur lequel vous retrouvez toutes sortes d'informations et également des moyens de nous joindre si jamais vous voulez peut-être nous parler de vos événements ou parler de votre passion pour les jeux. C'est possible de le faire. Et des nouvelles du fanzine, François?
Ça s'en vient. Donc, c'est fini d'être imprimé. La distribution va commencer probablement cette semaine. Alors, surveillez ça dans vos magasins. Le fanzine de Puissance Maximale est bientôt sur le web. Ça sera disponible.
Excellent. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, François, pour tout ton travail à la console.
Merci à toi, Vincent.
Ça fait plaisir.
Donc,
le temps à tous et à toutes de vous dire oui. Bonne semaine.